Marie-Pierre Goyette, élue présidente du Parti travailliste, Nicolas Bay en Calédonie et la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, une page politique pour ouvrir ce journal. Caillassage sur la RP1 ce matin, la route a été temporairement fermée à la circulation à hauteur de Saint-Louis. Le lancement au Mont d'Or de la semaine européenne de réduction des déchets, les écoliers vont participer à des ateliers et des animations toute la semaine. La France ne signera pas l'accord du Mercosur en état. Pas sûr que la déclaration d'Emmanuel Macron calme la grogne des agriculteurs qui reprennent leur mouvement de contestation. Et puis à l'étranger, Joe Biden autorise l'armée ukrainienne à utiliser des missiles longue portée. Si l'information est confirmée, cela pourrait changer le cours de la guerre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, quelques-uns des derniers rendez-vous sportifs à noter que nous développerons évidemment dans le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Et bonjour Jean-François.
Et d'abord du football avec la victoire de l'équipe de France ce matin en Ligue des Nations sur l'Italie.
Oui, 3 buts sur coup de pied arrêtés et les Bleus qui ne comptent pas s'arrêter après cette belle performance sur le terrain des Italiens. Une victoire 3-1 pour reprendre la place de leader de leur groupe. Les tricolores ont assuré et se sont rassurés avec un effectif remanié volontairement comme l'a voulu le sélectionneur Didier Deschamps. Les quarts de finale de cette Ligue des Nations se disputeront au mois de mars.
On reviendra évidemment sur la belle victoire du 15 de France de rugby sur les All Blacks dimanche matin. Puis nous parlerons MotoGP, un Espagnol et sacré champion du monde.
Une 3e place pour rester au sommet. Jorge Martin s'est contenté de terminer le dernier Grand Prix de la saison dans le sillage du tenant du titre Pecco Bagnaia et de l'ancien champion du monde Marc Marquez pour assurer mathématiquement son sacre après une année très animée dans ce championnat du monde de MotoGP. De quoi promettre de belles batailles l'année prochaine à partir du mois de février.
Et puis on prendra connaissance des résultats sportifs en Calédonie et nous parlerons du trail.
Ouais, dernier trail de l'année organisé par Challenge Organisation samedi prochain à La Foa, le rendez-vous coup de trail qui viendra clore la saison pour l'organisme en charge de la mise en place d'événements sportifs en plein air, l'occasion de présenter donc cette épreuve et de revenir sur cette année 2024 avec Maël Guillon, l'un des organisateurs de cet événement. Il sera dans nos studios.
On se retrouve donc pour le magazine des sports dès la fin de ce journal. Journal que nous ouvrons donc avec l'actualité politique. Il faut sortir des incertitudes en Nouvelle-Calédonie. C'est le mot d'ordre du député européen Nicolas Bay, qui était ce matin notre invité à 7h30, Elisabeth Noir.
Nicolas Bay, qui était déjà venu sur le territoire il y a tout juste un an, quand il était vice-président du mouvement Reconquête d'Éric Zemmour. Depuis, il a été élu au Parlement européen en juin dernier sur la liste de Marion Maréchal et il a rejoint le parti Identité et Liberté de cette dernière. Il revient sur le territoire aujourd'hui pour rencontrer un certain nombre de personnalités et pour être, dit-il, aux côtés des Calédoniens qui ont terriblement souffert. Il est revenu sur l'élément déclencheur des émeutes en déplorant le « en même temps » d'Emmanuel Macron.
Aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y avait à la fois, de la part d'Emmanuel Macron, une forme de courage, que je reconnais, au-delà des divergences politiques, à dire il faut dégeler le corps électoral, ce qui est une nécessité. Et en même temps, c'est ce qui, malheureusement, le « en même temps » qu'il caractérise toujours, une fois qu'il a tous les inconvénients, toutes les conséquences de ce courage politique, de cette clairvoyance, avec les émeutes, avec les indépendantistes qui commettent des exactions effroyables, eh bien, il s'arrête, il renonce finalement à ce projet où il le diffère éternellement, ce projet à la fois de dégel du corps électoral et de réforme institutionnelle. Or, les Calédoniens, à l'issue de ce qui avait été prévu par les accords de Matignon et de Nouméa, ont voté par 3 fois, ont exprimé leur attachement à la France, leur volonté d'ancrer définitivement la Nouvelle-Calédonie dans la France, eh bien, il faut maintenant que cette volonté démocratiquement exprimée dans les urnes se traduise par des actions juridiques et par la constitutionnalisation.
Aujourd'hui, Nicolas Bay prône la fermeté et l'intransigeance dans le dossier calédonien, notamment dans la perspective des futures discussions sur l'avenir institutionnel.
Le préalable à la discussion, c'est la fin du gel du corps électoral, c'est la possibilité pour tous les citoyens ici en Nouvelle-Calédonie de voter à ces élections. On ne peut pas continuer dans un schéma qui a consisté à ce que la province sud soit lourdement sous-représentée en nombre d'élus au Congrès, que le corps électoral soit gelé de sorte qu'il y a des gens qui sont installés depuis des décennies ici, qui sont nés ici, qui n'ont jamais connu aucun autre lieu de vie que la Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent pas voter, qui sont écartés du processus électoral. Même la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que c'était absolument inacceptable et qu'il fallait maintenant mettre un terme à cette situation qui n'aurait dû être que très transitoire. Mais on voit bien que le temporaire n'a cessé de durer, il ne faudrait pas qu'il devienne définitif. Donc le dégel du corps électoral, c'est une nécessité absolue. Le respect du vote par 3 fois par référendum des Calédoniens, c'est une nécessité absolue et ça doit être la base de ces discussions.
Le député européen Nicolas Bay qui reste jusqu'à mercredi sur le territoire. Et puis nous l'avons également interrogé sur une question d'actualité, le procès des assistants parlementaires du Front National, dans lequel il est également poursuivi. Le parquet a requis à son encontre 18 mois de prison, dont 12 avec sursis, 30 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Cela veut dire que, comme Marine Le Pen, si la peine est confirmée, il ne pourra pas faire appel.
Ces réquisitions, qui sont totalement délirantes, montrent que le parquet s'inscrit dans une logique de procès politique. D'ailleurs, cette affaire-là, elle remonte à il y a 10 ans. C'était le président socialiste du Parlement européen, Martin Schulz, qui avait demandé à Mme Taubira, ministre socialiste de la Justice, d'engager une procédure contre nous, en expliquant que nos assistants parlementaires ne travaillaient pas pour nous en tant que députés européens, mais pour notre activité partisane. Alors qu'évidemment, tout le monde comprend bien que quand on est un responsable politique, quand on a des responsabilités dans un parti et qu'on a un mandat parlementaire, eh bien, la personnalité politique, elle forme un tout. Et c'est pas parce que nos assistants nous aide dans le travail politique parlementaire qui ne se limite pas à ce qu'on fait dans l'hémicycle de Strasbourg ou de Bruxelles qu'on a commis une infraction pénale. Voilà. Mais on voit bien qu'il y a une volonté de mise à mort politique. On a eu des institutions judiciaires aujourd'hui qui sont très discréditées en France. Beaucoup de Français, légitimement d'ailleurs, n'ont pas confiance dans la justice de leur pays. On voit une justice qui est intransigeante avec les adversaires politiques du système que nous sommes, mais par contre qui est toujours pleine de mansuétude à l'égard des voyous, des criminels, des délinquants. Donc il faut évidemment que la justice, pour être respectée, ne soit pas instrumentalisée politiquement. Aujourd'hui, on a une justice qui, malheureusement, est instrumentalisée politiquement.
Et pour Nicolas Bay, ce serait un scandale que Marine Le Pen soit empêchée de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Une interview de Nicolas Bay à retrouver en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu.
Actualité politique toujours, et Marie-Pierre Goyetch est la nouvelle présidente du Parti travailliste. Elle a été élue hier pour le 12e congrès de son parti pour succéder à Louis Cotraud-Regey, décédé en octobre 2022. Le Parti travailliste qui s'aligne sur la position de l'Union calédonienne depuis le congrès contesté du FLNKS réuni fin août à Koumac.
Le parti aujourd'hui est dans le FLNKS, donc on continuera justement de tenir compte du congrès de Pagou. Hein, ce qui s'est passé à Koumac, c'est notre ligne de conduite, mais également le parti aujourd'hui veut conserver aussi sa singularité. On est au sein de la structure du BP-FLNKS, on va porter justement la feuille de route de Pagou, mais aussi notre vision des choses. Aujourd'hui, on voit qu'il y a deux partis qui sont toujours dans le FLNKS, mais qui ne prennent pas aux différents travaux du FLNKS. Un moment, on se rencontrera, on se parlera, on échangera, on se retrouvera, puisque la finalité, elle est la même, c'est la pleine souveraineté.
Marie-Pierre Goyetch, ancienne présidente de l'USTKE, a été élue après le désistement des deux autres candidats à la présidence du Parti travailliste, André Forest et Rauch Rauch. Lors de ce 12e congrès du Parti travailliste, plusieurs motions ont été adoptées. Elles indiquent notamment que le bureau politique du FLNKS sera le seul interlocuteur en ce qui concerne les discussions sur l'avenir institutionnel.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. L'attitude du FLNKS qui affirme être le seul représentant du peuple kanak et exige d'être partie prenante aux futures négociations peut-elle, selon vous, retarder la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et à 11h39, c'est l'heure de retrouver la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Faire de deux rêves un rêve partagé, c'est l'objectif qui nous est fixé par Gérard Larcher, le président du Sénat, qui vient de participer avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à une visite qualifiée d'historique, parce que jamais les présidents des deux chambres du Parlement n'avaient effectué un tel déplacement en commun. Gérard Larcher nous appelle aussi à passer d'une confrontation stérile à une conjugaison vertueuse, et tous deux nous enjoignent de construire un avenir apaisé et nous invite à la réconciliation. On ne remet pas en cause la sincérité de ces deux hauts responsables, ni leur amour pour la Nouvelle-Calédonie ou leur volonté de bien faire. Mais 6 mois après le cataclysme du 13 mai, dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences et dont les cicatrices sont loin d'être refermées, il y a un peu d'irénisme dans leur attitude et dans leurs propos. L'apaisement, tout le monde l'appelle de ses voeux, et la réconciliation viendra sans doute. Mais pour le coup, il faut laisser un peu de temps au temps et ne pas mettre tous les Calédoniens dans le même panier, comme si la responsabilité était égale et que chacun portait une part de culpabilité. C'est bien la CCAT, le bras armé de l'UC, qui a porté un coup fatal au vivre ensemble et qui, pour reprendre les propos de Gérard Larcher, a sapé les fondements même de ce qu'une génération s'était forcée de construire. C'est bien la CCAT qui est responsable de ce déchaînement de violence qui, toujours pour citer le président du Sénat, donne le sentiment d'un terrible retour en arrière. On ne peut en faire grief à l'ensemble des Calédoniens en leur commandant l'apaisement et la réconciliation. Et franchement, Était-il judicieux d'évoquer la souveraineté partagée? Certes, pour Gérard Larcher, c'est un choix qui n'est pas nécessairement binaire et qui peut passer par une construction imaginative et originale au sein de la République. Certes, la souveraineté partagée, même si c'est un oxymore, existe déjà dans l'accord de Nouméa. Mais l'expression est ambiguë et tous les commentateurs de pacotille se sont jetés sur la formule comme si c'était une révolution, voire la panacée à tous les maux de la Nouvelle-Calédonie. C'est dommage, parce que cette expression que Gérard Larcher avait déjà utilisée devant le Congrès en 2016 est venue polluer ce déplacement alors qu'elle n'a plus vraiment lieu d'être aujourd'hui. La France ou l'indépendance, l'indépendance ou bien la France, c'est le choix ultime que l'on a imposé aux Calédoniens pendant 40 ans. Mais il a été tranché par les trois référendums de sortie de l'accord de Nouméa. À trois reprises, les Calédoniens ont choisi la France et c'est cette réalité démocratique qui doit désormais servir de plancher aux discussions futures. Il fallait d'ailleurs entendre le président du Sénat quand il déclare que la Nouvelle-Calédonie est depuis plusieurs décennies un laboratoire de solutions inédites et quand il affirme aussi qu'il ne faut pas se laisser piéger par les formules toutes faites et les phrases chocs. Mais certains n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Les indépendantistes qui se divisent entre radicaux et modérés, entre constructifs et destructeurs, entre réalistes et doctrinaires, peuvent faire semblant de croire que la situation n'a pas évolué depuis 40 ans. Ils peuvent répéter que leur objectif reste la pleine souveraineté, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et leur base qu'ils continuent d'entretenir dans des idéologies dépassées. Faire de deux rêves un rêve partagé, c'est la volonté de concilier les antagonismes qui étaient déjà présents dans les accords de Matignon. C'est aussi ce qui sous-tendait l'accord de Nouméa. Et personne n'a le droit d'oublier qui a transformé ce rêve en cauchemar.
La chronique de la semaine oubliée, la chronique de la semaine écoulée, pardon, d'Elisabeth Noir, elle est à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Vous pouvez aussi la réécouter cet après-midi, juste après le flash de 16h. Des incidents à Saint-Louis ce matin, la RP1 a été coupée temporairement à la circulation. On fait le point dans un instant dans la deuxième page du journal.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des problèmes de termites de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Un nouvel épisode de caillassage sur la RP1 à Saint-Louis ce matin. Les gendarmes ont dû refermer le verrou le temps de mener une opération de maintien de l'ordre, Nicolas Legrand.
Oui, une opération qui s'est poursuivie dans la matinée. L'axe a été rouvert, mais les gardes mobiles ont continué à faire face à des individus hostiles. Ils ont fait usage de grenades de désencerclement et de gaz lacrymogène. La circulation se faisait dans les deux sens ce matin avec à l'entrée du verrou nord une pancarte indiquant de rouler les fenêtres fermées. Emprunter l'axe représente donc toujours un danger pour les automobilistes qui souhaitent traverser la tribu. Une situation qui n'a que trop duré pour Florent Perrin, le président de l'association Citoyen Mondorien.
C'est habituel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la question nous qu'on se pose. On attend des décisions de Paris. On a eu quand même le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale qui nous ont dit que c'était inadmissible et que dans la Constitution, on a un droit de circuler, que les caillassages aussi, c'est pas possible. Et puis, rien n'a changé depuis mercredi dernier. Donc nous, on attend les décisions de l'État avec impatience parce que aujourd'hui, c'est plus possible de vivre comme ça. Et on le voit bien encore ce matin, c'est-à-dire que même avec une centaine de gendarmes sur l'axe, on se fait caillasser. Donc les solutions, elles sont sur la table. Maintenant, il faut prendre les décisions.
L'association Citoyen Mondorien qui attend donc une sécurisation de l'axe pour permettre la levée du verrou qui contraint les habitants du Sud à être de retour sur cette partie de la commune avant 18h.
Et c'est dans ce contexte que se déroule la remobilisation officielle des équipes de Pronier Resources après 6 mois d'arrêt de ses activités. PRNC qui s'engage dans une transformation stratégique pour pérenniser ses activités et contribuer à la transition énergétique mondiale tout en restant un acteur clé du tissu économique calédonien. L'essentiel des équipes s'est rendu sur site ce matin par bateau. Seuls les sous-traitants doivent prendre la route. À Thieu, on en parlait hier, des familles sont encore la cible d'exactions avec des individus qui sévissent toujours sur la commune. Ce week-end, ils ont tué un cheval. Le propriétaire a retrouvé l'animal abattu par arme à feu. Ce n'est pas la première fois que des animaux, des chevaux ou du bétail sont pris pour cible. Cette situation sera à long terme dommageable pour la commune de Thieu elle-même, regrette Guy Monvoisin, le président du syndicat des éleveurs.
C'est triste et navrant parce que ça veut dire que dans certains endroits comme ça, on n'accepte plus la mixité, on n'accepte plus d'être ensemble. Je trouve que c'est vraiment dommage pour tout le monde. Les familles, aujourd'hui, à qui on tue les animaux, mais ils n'ont pas de conflit avec les gens. C'est des gens qui sont restés, en plus, c'est des gens qui sont restés après les événements, après la période dure des événements, qui n'étaient pas en conflit avec les gens de Thieu. Mais je trouve que c'est inadmissible et incompréhensible, et en plus, qu'on fasse partir ces gens en massacrant leurs animaux, quoi. Ils ont tort parce que le fait qu'il n'y ait plus de mixité, c'est l'image de la Calédonie qu'on perd. Nous, dans tous les endroits qu'on a sur la côte ouest où il y a de la mixité, où les gens ils sont à proximité des tribus, ou qui louent même des terrains aux tribus, ça se passe pas trop mal. Ça se passe même bien dans certains endroits. Cette espèce de délinquance d'un seul coup qui a vu le jour, là, ben voilà, on fait sa petite révolution. Pourquoi ? Contre des gens qui ne représentent pas un réel danger pour eux, quoi. À long terme, qui va aller s'installer là-bas ? Qui va vouloir aller s'installer là-bas ? Mais même le docteur, le pharmacien, n'importe qui, quoi, l'artisan, il va dire, mais non, dans ces coins-là, je ne veux pas y aller. C'est terrible d'en arriver là.
Guy Monvoisin, le président du syndicat des éleveurs de Nouvelle-Calédonie. Et puis en bref, ce drame survenu hier après-midi sur une propriété de Bouloux-Paris. Un homme a succombé à un accident à bord de son engin tout-terrain agricole dans le secteur de Ouaméni. Le véhicule s'est retourné pour une raison encore indéterminée. La victime était âgée de 38 ans. Une enquête a été ouverte. Cette semaine sera marquée par de nombreuses initiatives organisées dans le cadre de la Semaine européenne des réductions des déchets sur le thème cette année « Consommer mieux, gaspiller moins ». Le Mondor et l'ADEME proposent notamment des ateliers pour les écoliers, de compostage, permaculture spéciale culture vivrière, animation à la maison pédagogique de l'environnement ou encore un atelier « Bonne alimentation locale ». La Caisse des écoles de la commune organise depuis ce matin aussi une collecte de jouets dans ses établissements scolaires. Écoutez Olivier Berthelot, c'est l'adjoint au maire du Mont-d'Or en charge de l'environnement.
La semaine européenne de réduction des déchets au Mont-d'Or, donc une nouvelle édition sur le thème de consommer mieux, gaspiller moins. Donc c'est un événement qui est mis en œuvre par l'ADEME en Nouvelle-Calédonie. Donc le Mont-d'Or, encore une fois, rendez-vous avec un certain nombre d'activités. Donc on a des actions, on a le Noël solidaire d'ores et déjà. Donc c'est la Caisse des écoles qui organise une collecte de jouets dans tous les établissements scolaires. Et donc les jouets récoltés seront redistribués dans les garderies, cantines ou pendant les stages de vacances ou d'autres temps périscolaires. Donc l'idée c'est vraiment de récupérer des jouets en bon état, propres, qui ne servent plus dans les foyers des Mondoriens et puis les mettre à disposition dans les écoles pour faire le bonheur d'autres enfants bien entendu. Mis en place aujourd'hui et ça dure toute la semaine.
Et notez qu'une opération de nettoyage de l'île aux baillis sera aussi organisée demain avec les élèves du collège de Ploum. Et puis en bref, la commission permanente du Congrès se réunit cet après-midi. Les élus doivent examiner la création d'une aide énergie exceptionnelle pour les ménages impactés par les émeutes, mais aussi l'avant-projet de loi du pays qui modifie l'interdiction de mise sur le marché de divers produits en matière plastique. L'actualité dans la région et le secrétaire d'État américain à la Défense poursuit sa visite. Il est toujours en Australie. Visite qui a été l'occasion pour Canberra d'annoncer un renforcement de la coopération militaire avec le Japon. Explication de Jean-Pierre Zajac.
Le renforcement de ces liens militaires a été décidé hier lors des discussions dites trilatérales qui ont eu lieu à Darwin entre le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et les ministres de la Défense d'Australie et du Japon, Richard Marles et Jen Nakatani. Dans le concret, cette nouvelle phase de la coopération militaire australo-japonaise va se traduire par l'envoi, à partir de l'an prochain, de la brigade amphibie de déploiement rapide des forces d'autodéfense nippones dans le territoire du nord de l'Australie, où elle participera à des exercices conjoints avec les troupes australiennes et les Marines américains qui y sont régulièrement déployés. Les forces australiennes seront également engagées au Japon dans des manœuvres militaires américano-nippones. L'objectif visé sera d'accroître l'interopérabilité trilatérale a indiqué Richard Marles dans un communiqué. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h et bientôt 51 minutes. Dans un instant, ce sera l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Mazda informe son aimable clientèle que le service après-vente Mazda ainsi que le service des pièces Mazda sont maintenant situés à Mazda Magenta, 174 rue Auguste Bénébigue. Mazda vous souhaite bonne route.
Votre Auchan Kefferi fête ses 1 an. C'est notre anniversaire, mais c'est vous qu'on gâte. Ce lundi 18 novembre, on vous offre 10% de remise sur la poissonnerie avec la carte fidélité et la possibilité de remporter l'un de nos deux caddies surprise d'une valeur d'environ 60 000 francs. Rendez-vous en magasin.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Bodin.
Emmanuel Macron, en route pour le G20 au Brésil, fait une longue étape en Argentine. L'occasion d'évoquer avec ses interlocuteurs et notamment avec le président argentin Milei le fameux accord Mercosur, accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud. En métropole, cet accord fait bondir le monde agricole qui commence à se remobiliser. Rien n'est encore fait puisqu'Emmanuel Macron a indiqué qu'en l'état, la France ne signerait pas cet accord.
J'ai également dit de manière très sincère et très claire au président argentin le fait que la France aujourd'hui ne signerait pas en l'état ce traité Mercosur. Et cette fermeté que nous avons, elle est simple, c'est que nous ne croyons pas au préaccord tel qu'il a été négocié. Parce qu'il ne prend pas en compte toutes les évolutions que nous avons fait nous-mêmes sur nos propres marchés. Et comme je lui ai dit, pour l'Argentine, il serait très mauvais pour sa réindustrialisation. Et pour nous, il serait très mauvais pour notre agriculture. Et donc, je ne veux pas qu'on cède de notre souveraineté alimentaire.
Une annonce qui intervient alors que les agriculteurs se mobilisent à nouveau en métropole, comme au début de l'année. Les premières manifestations ont eu lieu en région parisienne, notamment sur la Nationale 18. Et ce ne sont pas les dernières annonces d'Emmanuel Macron qui vont changer leur détermination.
C'est une annonce de plus. On a eu la démonstration qu'il nous a fait au sein de l'agriculture. Toutes des belles annonces. Et puis au final, il n'y a rien qui sort. Donc on va voir s'il est assez puissant ou assez intelligent pour faire plier la Commission européenne sur le Mercosur.
C'est un peu des paroles en l'air pour vous ?
Carrément. Comme on a l'habitude d'entendre, de toute manière maintenant. Aucune crédibilité. Pour l'instant, il n'y a que les faits qui m'intéressent. Donc on attend maintenant de passer au concret, quoi.
Et que ce soit le Mercosur ou les autres accords de libre-échange, que ce soit les effets de la politique agricole commune, les agriculteurs n'arrivent toujours pas à vivre de leur profession avec des charges trop lourdes. Ils sont donc en train de relancer leur mouvement qu'ils avaient initié en début d'année.
Absolument rien n'a changé. Des promesses, paroles, et voilà. Je suis amer. Je ne sais pas combien il faudra de suicides supplémentaires dans le milieu agricole pour qu'ils commencent à bouger, quoi. Mais ça ne va pas, quoi. Il y a un moment, on ne peut plus, quoi.
Et le mouvement des agriculteurs devrait prendre de l'ampleur dès la nuit prochaine pour nous avec plusieurs blocages de routes prévus. Grogne sociale également à la SNCF avec une première grève jeudi, puis une autre illimitée à partir du 11 décembre. Les syndicats protestent contre le démantèlement de fret SNCF. Les maires aussi sont en colère pour les 5 milliards d'économies supplémentaires qui sont demandées aux collectivités. Le congrès des maires de France s'ouvre dans 2 jours et ils entendent bien manifester leur désapprobation au Premier ministre, a expliqué Jean-François Vigier, maire UDI de Bures-sur-Yvette et vice-président de l'Association des maires de France.
On avait eu les baisses de dotation du temps de Hollande et puis maintenant c'est cette nouvelle baisse qui vient s'ajouter à d'autres. Mais c'est les finances, c'est les normes, c'est cette bureaucratie qui nous étouffe, qui nous étreint année après année. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus mener à bien nos politiques publiques.
Jean-François Vigier, maire UDI de Bures-sur-Yvette et vice-président de l'Association des maires de France, le congrès des maires de France qui s'ouvre donc dans 2 jours. L'actualité à l'étranger avec cette décision encore non officielle des États-Unis qui pourrait changer le cours de la guerre en Ukraine. Joe Biden aurait autorisé pour la première fois depuis le début du conflit l'armée ukrainienne à utiliser des missiles longue portée. Ce qui veut dire que Kiev pourrait frapper des installations sur le sol russe. Écoutez le commentaire de Xavier Tittelmann, expert militaire.
Cette décision américaine, elle est attendue depuis très longtemps. Par exemple, au mois de mai dernier, quand finalement les Ukrainiens avaient eu le droit d'utiliser les armes qui leur ont été fournies par leurs alliés sur le territoire russe, l'offensive de Kharkiv s'était effondrée. Et là, c'est exactement la même chose qu'ils espèrent obtenir, c'est-à-dire que toutes les bases d'où partent des missiles, d'où partent les hélicoptères, des dépôts de munitions, des pièces d'artillerie qui sont juste de l'autre côté de la frontière, tout ça, ça va pouvoir être frappé. Évidemment, ça aura un impact important sur l'afflux logistique de la part de la Russie, mais également pour la destruction du potentiel qui bombarde tous les jours l'Ukraine.
Et la nuit dernière, l'Ukraine a été ciblée par l'une des plus grandes attaques aériennes russes depuis le début du conflit en février 2022.